لا يلا
radio, une radio que personne ne connaît, qui surgit de nulle part. Vous trouvez pas ça bizarre ?
Vous écoutez Principe Actif.
Vous écoutez Principe Actif à Évreux 102.4 dans le sud de l'Eure 95.9. Principe Actif, le mix des cultures.
Et bonjour et bienvenue sur Radio Super Pouvoir, l'émission des comics et des super-héros. Aujourd'hui, sur Principe Actif et sur le web, je suis rejoint par Alain. Bonjour Alain.
Salut Guillaume et bonjour à tous nos auditeurs, que ce soit sur la radio Principe Actif ou sur le podcast.
Alors, on est très ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un dossier spécial. Sans Cédric, malheureusement, je sais qu'il aurait aimé être là, mais ce sera à charge de revanche. Un dossier dont Alain a trouvé le titre d'ailleurs. Peux-tu nous le présenter, s'il te plaît ?
Alors, écoute, le titre, c'est Hollywood et les comics, les liaisons dangereuses. Puisque, du coup, aujourd'hui, on va s'intéresser aux relations plus ou moins tumultueuses qu'ont les comics avec le cinéma. Alors, du coup, on le sait, hein, ça fait 20 ans maintenant, presque 30 ans, que les comics et les super-héros, en règle générale, font les beaux jours des films d'action à Hollywood et ailleurs, et mais c'est une histoire qui n'a, alors une histoire qui a eu beaucoup de succès, on le sait, tout le monde le sait, notamment toutes les séries de films d'Avengers et tout ça qui ont tapé leurs milliards de dollars de bénéfices.
Oui, maintenant ça fait partie du décor, mais ça n'a pas été le cas à une époque pas si lointaine d'ailleurs.
Voilà, exactement, et en tout cas ça n'a pas été une histoire qui a toujours été couronnée de succès et qui n'a toujours été très rose, et donc on va parler un peu de ça, effectivement, de cette histoire un peu tumultueuse entre Hollywood et les comics, un peu je t'aime, moi non plus.
Oui, oui, oui. Et Alain, je pense que tu vas commencer déjà en nous racontant un petit peu les prémices, jusqu'à peu près aux années 80, et je prendrai un peu le relais derrière pour parler de magnifiques nanars que nous avons eu et que nous n'avons pas eu. Attention, Menahem Golan est de retour. Parce que si vous connaissez pas l'histoire de Spider-Man, attendez-vous à des surprises.
Ah oui, 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 effectivement.
Tu t'en souviens de celle-là?
Pour les débuts, on va surtout, en tout cas pour les débuts au niveau de Hollywood et des films d'action de grande ampleur, hein, puisque les super-héros ont été adaptés, ont commencé à être adaptés assez tôt, notamment dans les serials des années 40, mais c'est quand même, ça reste quand même assez anecdotique. Bon, la vraie naissance des super-héros au cinéma et à Hollywood, c'est bien évidemment le Superman de Richard Donner.
Richard Donner, ouais. Avec Christopher Reeve, Gene Hackman.
Et déjà, dès ce film, en fait, tout n'a pas été rose entre les comics et Hollywood, puisque dès 1975, en fait, les droits ont été achetés par les Salkin, la famille Salkin, hein, qui était un peu des pontes, des nababs d'Hollywood, qui ont acheté tout simplement les droits d'adaptation de Superman pour en faire un film, tout simplement. Ce qui est arrivé aux oreilles des deux créateurs, Jerry Siegel et Joe Shuster, et qui se sont rendus compte au vu du prix qui était payé par les Salkin, il y en a quelques-uns qui se faisaient enfler dans l'histoire, et comme d'habitude, c'était eux-mêmes. Alors, on va rappeler quand même que Siegel et Shuster ont une très longue histoire depuis 1938, avec la Warner notamment, qui est propriétaire des droits de Superman, puisque dès le départ, hein, ils ont été très peu rémunérés pour la création de leur personnage, puisque vous le savez peut-être, dans les comics, c'est un travail à la commande, c'est-à-dire que ce sont des entreprises qui commandent des histoires à des artistes. Et ces histoires, une fois qu'elles sont commandées et qu'elles sont payées aux artistes, les histoires sont la propriété de l'entreprise, donc de Marvel, de DC Comics, tous ces choses. Donc l'histoire est connue, hein, Siegel et Shuster auraient touché $130, quelque chose comme ça, pour le tout premier épisode de Superman, Action Comics numéro 1. Et ils ont été rémunérés, bien sûr, pour toutes les pages qu'ils ont produites, mais ça a toujours été au prix de la page et jamais au niveau de l'importance qu'a pris le personnage, tant au niveau culturel et au niveau commercial aussi, avec tous les goodies qu'il y a pu y avoir et tout ça. Donc, ils ont été rejoints en 75 par Neil Adams, qui était un dessinateur très très en vue à l'époque, et qui a lui aussi tapé du poing sur la table en disant que là, pour le coup, ça devenait un peu chaud. Là, les auteurs n'étaient absolument pas mis en avant et absolument pas reconnus pour ce qu'ils faisaient. Donc, ils ont commencé à se lancer dans un combat juridique. Alors, tout de suite, la Warner a voulu calmer le jeu parce qu'ils se sont dit, ça, c'est une histoire à avoir des problèmes. Et du coup, tout simplement, ils ont proposé un accord. Comme ça se fera beaucoup, hein, on le verra au cours de ce dossier. Un accord avant jugement, avant un procès, où les deux parties se mettent d'accord, souvent avec une somme d'argent à la clé. Et donc, nos amis Siegel et Shuster vont se retrouver avec une rente de $20,000 annuels, qui toucheront donc jusqu'à leur mort, jusqu'à leur décès, et leur famille aussi d'ailleurs, et bien tout simplement en réparation et en dédommagement de la création de laissant à la Warner totalement libre de ce qu'elle peut faire ensuite avec le personnage. Donc ça sera pas les premiers, enfin ça seront pas les seuls du coup en tout cas, à aussi demander leur part de reconnaissance et de rémunération, tout simplement. Ce sera le cas aussi de Steve Gerber chez Marvel, qui lui va se rendre compte. Alors il a été viré en 78 de sa série Howard the Duck, hein, qui était une série à succès, qu'il écrivait. Alors, il écrivait aussi bien les comics mensuels que le strip quotidien qui paraissait dans les journaux. Donc, c'est dire si à l'époque le personnage avait du succès.
Oui, Cédric, on a longuement parlé dans de précédentes émissions. Et si mon cerveau ne me fait pas défaut, je vous mettrai les liens dans les descriptions de cette émission.
Voilà, voilà.
Alain me tapera sur les doigts, il fera en sorte de me le rappeler.
Tout à fait, exactement. Et Gerber, enfin, n'étant pas du genre quelqu'un à avoir un discours assez tiède, voilà, est un satiriste, hein, il prend Water Duck pour vraiment comme un matériel de satire et de critique sociétale, ce qui ne va pas forcément plaire, et donc dès 78, voilà, il se fera gentiment, mais sûrement, jerker de sa série, ce qui sera un geste qu'il appréciera guère. Et ce qu'il appréciera encore moins, c'est que 2 ans après, il apprend que les droits de Howard the Duck sont optionnés par des producteurs pour faire un film. Et du coup, il se lancera lui aussi dans des poursuites judiciaires, notamment contre Marvel. Alors qu'ils se solderont pas bien pour lui. Il ne réussira jamais vraiment à faire reconnaître sa paternité du personnage par Marvel. Mais en tout cas, il participera au film de façon un peu lointaine, mais il y participera et de façon plutôt positive. Hein. Il ne s'y opposera pas, il passera sur le tournage, et ce qui nous donnera quand même un film magnifique qui s'appelle Howard the Duck, produit par George Lucas, que les fans de Nanarland doivent bien connaître. Enfin, voilà, le film n'est pas forcément très heureux.
C'est un euphémisme, mon cher Alain.
Très loin de la charge politique que Gerber pouvait donner à ses bandes dessinées. Mais enfin voilà. En tout cas, c'est un des films qui sera tiré des comics durant les années 80. Il y aura bien sûr Batman, hein, de Tim Burton.
En 89.
Ouais. 89. Puis la suite 92 avec Batman Returns.
Mais avant ça, il y a eu d'autres petites choses.
Mais avant ça, il y a eu d'autres petites choses, voilà, ouais, c'est...
Voilà, des petites choses pas si petites, ça dépend ce qu'on en pense. 1989, il y a eu la première adaptation du Punisher, je sais pas si beaucoup s'en souviennent. Moi, j'ai le Blu-ray ici, le Blu-ray de Ecstasy of Film, ceux qui sont en vidéo pour voir, là. Une jolie édition collector sortie il y a quelques années, avec quand même la version cinéma du film, la version uncut, la version workprint et une interview inédite de Mark Goldblatt.
C'est... Faut bien ça, pour rendre hommage à ce film.
oui, à ce chef-d'œuvre. Mark Goldblatt, d'ailleurs, si vous ne savez pas qui c'est, c'était un monteur très en vue dans les années 80, un monteur notamment de Commando avec Schwarzenegger.
Autre grand film.
D'ailleurs, son boulot sur Commando est à saluer parce que malgré tout, c'est lui qui arrive à rendre ce truc quand même regardable parce que.
Voilà. Non, c'est un très bon moteur, Goldblatt, effectivement.
Ah oui, mais vraiment,
très en vue sur la scène hollywoodienne à l'époque.
Ouais. C'est pour ça que tout le monde le voulait, c'est pour ça qu'on a fini par lui donner un poste de réal, malheureusement, sur ce film qui a été un peu sabordé par la production et qui n'est sorti qu'en vidéo aux États-Unis dans une sortie limitée en Europe. C'est avec Dolph Lundgren, d'ailleurs.
Notre cher ami Dolph.
Oui, qui, pour une fois, n'est pas blond.
Mais non, puisque Franck est sur les bras. C'est vrai qu'un Italien de 1m90, blond aux yeux bleus.
Ouais, c'est comme Thomas Jane. Hein. Thomas Jane n'est pas brun, il est blond lui aussi. Quand il a titré Nanarland à l'époque, pénurie de brun sur Hollywood. Ouais, il fait beaucoup rire, ça d'ailleurs. J'étais ado. Oui. Bon, bah, que dire de ce film? Bah, ça a le mérite d'être drôle, d'être bourrin. Et d'avoir des répliques assez cultes, notamment avec Louis Gossett Jr. qui joue le second rôle et qui a des répliques vraiment pas possibles dans le film. C'est vraiment très drôle, avec des dialogues du genre, des méchants qui disent « Oh, t'as pas envie de pisser ? Ah si, faut que j'aille pisser. Ok, j'y vais. » Vraiment, hein. Ah, je dis ça. Oui, non, et le film, je m'en souviens quasiment par cœur, et il y a vraiment des répliques, c'est comme ça, hein. Tu te dis « Mais
ouais. » C'est ouais. Bendis avant l'heure, hein. C'est qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Je sais pas, toi, tu vois le verrien, qu'est-ce que tu veux manger? Bon, je sais rien.
Oui, voilà, non, mais. Et en plus, il y a le scénariste. Alors, parce que, attendez, je vais vous retrouver ça vite fait. Parce que, c'est comment il s'appelait déjà le scénariste de ce film? Producteur, produit, gna gna gna. Voilà, Bozy Akin, qui est pareil, qui a été un scénariste très en vue à une époque.
Et qui a réalisé aussi, hein.
Oui, oui, oui.
Donc, je ne sais plus quoi, mais.
Un magnifique film avec Jason Statham, Safe.
Ouais, bah c'est ça, du Fat Jack to Video.
C'est pas mal, c'est pas mal.
Ouais.
Ouais, mais pareil, il y a ça qui est intéressant avec ce Punisher, c'est que bah, finalement, il y a du beau monde derrière. Sauf que
c'est résultat... assez étonnant. Et c'est, ce qui est étonnant, c'est que du coup, c'est quand même un film du Punisher, mais qui n'emporte que le nom, parce qu'au final, c'est juste un actionneur de base, parce qu'il n'y a même pas le crâne. Enfin, il n'y a même pas le logo.
Il y a le crâne sur ses couteaux.
Ah oui.
Parce que Mark Goldblatt trouvait ça complètement con qu'un mec se balade avec un crâne sur le torse.
D'accord.
Voilà.
Okay. Voilà. Bah, oui,
que peut-on dire
C'était un film de son époque, effectivement, et à cette époque, les super-héros n'étaient pas forcément en odeur de sainteté. C'est le cas de le dire. En tout cas, on comprenait forcément leur portée à la fois graphique et, je vais pas dire philosophique, ça serait trop fort, mais voilà, leur portée culturelle en tout cas.
Et petite curiosité, le méchant dans ce film est joué par Jeroen Krabbe, transfuge de chez Paul Verhoeven. C'était un acteur de Paul Verhoeven en Hollande, donc il est hollandais, qui a joué un an avant le méchant dans Living Daylights, le premier James Bond avec Timothy Dalton, et oui, et qui a joué le méchant dans Le Fugitif aux côtés d'Harrison Ford quelques années après.
Ah, oui.
Et comme quoi, non mais il y a vraiment des trucs, ce casting, le scénariste, le réalisateur, tu te dis comment ils ont fait pour rater ça, en fait. Bon bah... Mais en tout cas, c'est moins raté que Captain America d'Albert Pyun, sorti en 1990. Ah. Dont je vous ai déjà parlé, j'ai pas envie de revoir cette horreur.
Là aussi, on est dans le nanar pur jeu.
Oh oui, oh là 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 là.
Voilà, un direct to vidéo.
Fauché.
Fauché, oui, effectivement, dirigé par Albert Pyun, qui était un habitué.
Habitué de Van Damme.
Habitué de Van Damme et habitué des direct to vidéo aussi. Fauché, donc l'un dans l'autre, voilà, c'était assez logique que ça se foire. Et,
un mec qui avait des idées, mais pas vraiment le talent ou les budgets pour les mettre en œuvre.
C'est ça, oui, c'est ça.
Voilà. Et on a eu le projet Spider-Man développé chez la Canon par Menahem Golan pendant les années 80, qui devait être réalisé par Joseph Zito, réalisateur incroyable d'Invasion USA avec Chuck Norris, et le Scorpion Rouge avec Dolph Lundgren. Voilà, voilà, avec la son âme, Chuck Norris est décédé. Et aussi le Scorpion Rouge, pareil, chef d'œuvre. Bon, pas du tout, hein, n'allez pas voir ces trucs, sauf si vous avez vraiment les nanars, mais c'est quand même une perte de temps. Ouais. Je me suis tous tapé, donc...
Alors, faut dire aussi, c'est qu'à l'époque, James Cameron a été approché aussi. Hein,
C'était un peu après, quand Menahem Golan, ne sachant pas quoi faire, a un peu refourgué le projet, parce qu'avant, il comprenait tellement, il se dit, c'est quoi... Littéralement, il avait dit en réunion, c'est quoi cette merde? On n'a qu'à faire une araignée géante qui attaque New York.
Voilà, on n'a qu'à faire ça, ça marche.
Il a tout compris au perso, voilà. Donc le projet a fini à la poubelle et James Cameron l'a récupéré un petit peu après.
C'est ça. Bon, c'est pas, il n'ira pas au bout non plus, mais
non.
Ça aurait été assez intriguant. On peut rappeler aussi qu'il y a eu un Fantastic Four aussi chez Roger Corman.
Oui, qui n'est jamais sorti.
À cette époque, qui n'est jamais sorti, effectivement. Bon, qui est ressorti, je pense que si vous fouillez Internet, vous trouvez le métrage quelque part. Bon, là aussi, on est dans le, pardon, dans le nanar... bien dans son jus, bien dans son...
C'est du niveau Captain America d'Albert Pyun. Alors, faut avoir le cœur bien accroché et pas avoir trop mangé avant.
C'est ça, donc voilà. Effectivement, on est en face à une vraie incompréhension d'Hollywood, hein, face aux comics de super-héros. Clairement, ils ne savent pas quoi en faire. Ils savent que ça se vend, ils savent que c'est populaire. Comment le faire? Comment le présenter, comment faire des films, ça c'est beaucoup plus compliqué. Alors, au niveau Superman, en plus, c'est vrai que autant celui de Richard Donner et un peu moins celui de Richard Lester, mais ça va encore, les deux premiers films de Superman sont regardables, sont sympas, mais autant après.
Les suites ont été produites par la Canon.
Les suites ont été produites par la Canon, ouais. Et effectivement, sont des, là aussi, des films très mauvais.
Atomic Man.
Atomic Man, ouais. Enfin, le troisième, c'est un véhicule à un comic, je ne me rappelle plus son prénom, son nom.
Je sais plus. Je ne l'ai pas vu depuis des années.
Donc un truc très comique et très très hors sujet, très hors sol en fait. Le quatrième, effectivement, est encore plus à l'ouest. Le Supergirl n'est pas forcément mieux. Donc voilà. Les films à l'époque de super-héros, il y en a qui sont faits, mais ils sont très mal faits. Et les films qui sont réussis sont assez rares. Donc effectivement, on les a cités. Hein. Les deux premiers Superman sont dans cette catégorie. Le premier Batman et le Batman Returns de Tim Burton.
Ouais. Et là aussi, les Batman, après, on fait un peu florès parce qu'on a eu quand même. Les producteurs se sont dit ah, Batman, ça marche bien. Alors on va aller voir du côté des influences de Batman. Donc il y a The Shadow de Russell Mulcahy. Réalisateur d'Highlander.
Oui, il y aura un film sorti The Shadow, peu de temps après. Ouais.
Avec Alec Baldwin qui est plutôt pas mal, je trouve. Moi, j'aime bien ce film. Il est ressorti il n'y a pas longtemps en Blu-ray. Et il y a eu le Fantôme du Bengale, je n'ai plus le nom du réalisateur, avec... comment il s'appelle déjà cet acteur
qui a joué dans Titanic. Oui.
Qui est un film qui a vraiment été plombé au box-office, voilà, qui est sorti en 96. Donc, c'était avec, oui, Billy Zane, voilà. Avec un acteur que j'aime bien, et aussi Treat Williams, qui jouait aussi un des persos dans le film. Mm. C'est vrai qu'il y a quand même un casting pas mal, hein. Il y avait James Remar aussi, Catherine Zeta-Jones. Ils étaient quand même un peu connus déjà à l'époque. Mm. Hein.
Dans le même genre, tiens, ça me fait penser. Mais un peu à la marge du coup, mais intéressant en tout cas, c'est que dans les années 90, on aura aussi un Darkman de Sam Raimi.
Oui. Avec Liam Neeson,
exactement. Mmh. Alors qui n'est tiré d'aucun comics, hein, faut être très clair. Ce n'est pas une adaptation de comics. Par contre, c'est purement un film de comics avec un justicier qui se fait défigurer, qui se retrouve avec une force surhumaine. Et qui va venger la veuve et l'orphelin.
Qui va aller se venger, qui est capable de prendre l'apparence de n'importe qui.
C'est ça. Donc c'est réalisé par Sam Raimi, hein, qui on connaît, puisqu'on va en parler dans quelques minutes. Mais le film, alors voilà, paradoxalement, n'adapte aucun super-héros, mais est un des rares films de super-héros réussis de l'époque. Faut quand même le souligner.
Et si vous êtes attentif, vous retrouvez toutes les références, hein, de toute façon. Donc rapidement pour finir avec les dates, donc Batman Forever est sorti en 95, donc quelques mois avant le Fantôme du Bengale, et bon, ça commençait déjà à sentir un peu le pâté, sachant qu'en plus Val Kilmer a décidé de ne pas revenir pour la suite. La suite, incroyable suite, Batman et Robin, avec Arnold Schwarzenegger en Mr. Freeze.
Les deux Schumacher de... les deux Batman de Schumacher sont... Alors moi je les aime bien.
Psychédélique.
Voilà, je les aime bien, mais avec toutes les pincettes qu'il faut prendre. Parce qu'effectivement, on voit bien qu'est-ce qu'il a voulu faire à Schumacher. On voit bien qu'il a voulu récupérer le Batman Camp des années 60, que c'était ça qui le faisait marrer. Et quelque part, c'est pas plus con qu'autre chose. Effectivement, la série, elle existe. La série des années 60, elle existait. À l'époque, c'était un gros succès. Hein. C'était énorme, le succès de Batman, de la série Batman. Donc, vouloir reprendre ça, en soi, l'idée n'était pas forcément stupide. Par contre, il est vraiment allé très loin, alors surtout dans le Batman et Robin. Hein, il est très, très loin.
Oui.
Et après les deux Burton, ça n'allait pas. Quoi. C'était pas ce que les gens attendaient du tout. C'est pas ce que les gens voulaient. Et,
le ton était trop différent.
Voilà, c'était beaucoup trop différent et ça allait beaucoup trop loin dans le grand écart. Dans le grand écart. Donc, voilà. Ça n'a pas plu. On comprend pourquoi. Hein, parce que, mais à revoir, c'est drôle. C'est très, très drôle.
Oui, garde la tête froide, Batman.
Voilà.
c'est que ça.
Voilà. Et puis, il faut dire aussi qu'il n'était pas aidé à Schumacher, puisqu'il y avait à cette époque-là des producteurs.
Qui voulaient vendre que des jouets.
Qui voulaient vendre des jouets, qui voulaient enfin voilà, qui avait des idées très arrêtées.
Regardez Happy Meal, voilà.
C'est ça, ouais, qui avait des idées très arrêtées sur le merchandising et qui voulait absolument que tout rentre dans les films pour, voilà, enfin qui avait des recettes tout préfaites. Ça ne pouvait pas marcher. Et ça,
Marvel a suivi une recette très différente.
Alors pour le coup, Marvel a suivi une recette très différente, effectivement. Ce qui nous amène donc.
À Blade, sorti en 1998. Voilà. Avant cette émission radio, on a regardé la bande-annonce avec Alain. Et même s'il n'y a pas le gore dans cette bande-annonce, bah, au niveau du ton, là, c'est à 300, c'est même plus à 360 degrés, là, niveau Batman et Robin. On est dans un autre univers. Hein. Bah, si vous revoyez la bande-annonce, par exemple, de Matrix, de Dark City, de The Crow, c'est ça l'ambiance de Blade. Plus vous ajoutez tout le gore qu'il y a là-dedans, voilà. Donc film de Steven Norrington avec Wesley Snipes, Steven Dorff et Christopherson.
Voilà.
Et qui a lancé pas mal de choses et qui a lancé notamment des problèmes car le créateur de Blade, Marv Wolfman, a fait un procès en amont de la sortie du film à Marvel en 97.
Voilà, ce qui rappelle un peu effectivement les problèmes de Siegel, Shuster et de Gerber.
D'ailleurs, je précise car Wolfman, il a attaqué pour Blade, mais aussi il a attaqué Marvel par rapport à la création de Nova. Si vous aimez les Gardiens de la Galaxie, les comics, parce qu'il n'est pas dans les films, vous saurez qui est Nova. On va pas trop rentrer dans le détail parce qu'on n'aura pas forcément le temps, mais voilà. Il arguait en fait que il avait pas créé ses personnages sous contrat, comme l'a expliqué Alain au début, donc qu'il devait retenir la propriété intellectuelle de ses personnages. C'était un procès un peu particulier. Ed Piskor, avant son décès, avait fait tout un podcast là-dessus, où il revenait très en détail sur le procès. Malheureusement, nous, on n'aura pas trop du tout le temps de le faire, en fait. Mais si vous êtes anglophone, je vous conseille d'aller voir ça. Et donc, l'avocat de la défense, donc l'avocat de Marvel, lui demande à chaque fois quand est-ce qu'il a créé, à quelle époque, et en fait, il le piège en lui disant « Oui, mais à tel moment, c'est un personnage qui est chez Marvel, donc tel auteur l'a aussi utilisé, ceci, cela, voilà, qu'est-ce que vous avez signé comme papier exactement ?» Et en fait, c'était pas un procès avec jury, c'était vraiment un procès qui était fait uniquement jugé par un juge. Et à l'issue du procès, le juge a débouté Wolfman pour les deux affaires, donc sur la création de Blade, enfin sur les droits de Blade et de Nova. Donc il n'a pas du tout obtenu gain de cause, bien au contraire, et il s'est grillé avec Marvel, déjà qu'il s'était grillé avec DC quelques années avant. Donc Marv Wolfman, belle stratégie.
Ouais. Et malheureusement, on va le voir, hein, c'est la décision la plus générale, en fait, dans tous ces procès, c'est qu'effectivement... les juges retiennent régulièrement le fait que, effectivement, bah, les personnages créés sous contrat ne vous appartiennent pas. Vous le saviez. Voilà, c'est pas la peine de venir chouiner maintenant. Vous n'êtes pas en position. Alors, on le verra avec quelques exceptions.
Nous sommes rejoints inopunément par Cédric. Cédric.
Un guest surprise.
Je suis désolé, je viens de vous faire un petit coucou les copains parce que je viens d'arriver là, je rentre très tard.
Ah oui, quand même.
Oui, là. J'ai mangé, mais
bon. On est pas des bêtes.
Je me suis dit que je venais vous soutenir un petit peu, j'ai pas pu vous écouter, donc je sais pas si vous avez trop dit de bêtises ou pas.
Que les conneries.
Non, on a fini sur le procès de Marv Wolfman, là. Alain allait s'attaquer un petit peu à la suite.
Oui, tout à fait.
Je peux rester un peu avec vous, les gars?
Vas-y, au contraire. Et puis,
j'ai rien préparé, hein, là, du coup. Enfin,
si tu veux me corriger.
Regarde mon beau Blu-ray du